Voilà, ouvrez avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Marco, pour les Italiens. Espagnol, il n'y a pas d'espagnol ici, non? Comment tu dis en espagnol? Marco aussi? Oui, c'est bon. Allez, Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus fut. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Tout le monde a entendu parler de la foi qui déplace des montagnes. Vous dites oui, mais tout le monde ne le sait pas, hein, d'où ça vient. Parce que c'est ça le plus important. Hein. Parce que peu connaissent l'origine, tout simplement, de ce propos. Alors peut-être que ce soir, quelqu'un va dire « je suis un peu plus savant ». Parce que je ne savais pas, je viens de le découvrir, c'est dans la parole de Dieu. Eh oui. Alors, ce qui serait très bien, mais à condition justement de faire bon usage de cette toute nouvelle science. Vous êtes certainement d'accord avec moi sur ce point-là. Hein. Bon, le but de notre réflexion ce soir n'est pas là. Nous allons nous intéresser eh bien, à ce pauvre figuier qui a été maudit par Jésus sans que l'on sache très bien à première vue pourquoi. Il aurait pu dire, je vais attendre, hein, quand ce sera la saison, ce sera bon, j'aurai des figues. Moi, je les regarde, hein, je promène, et puis en promenant, je vois des figuiers, je vois les figues qui commencent à grossir. Bon, ce n'est pas encore la saison. Hein. Mais bon, elles sont là, je dis, ah, je t'ai repéré, toi. Et quand ce sera le moment, waouh, c'est bon la figue. Hein. Alors, Jésus a eu ce jour-là un comportement étrange. D'ailleurs, l'évangéliste Marc nous dit que les choses ont commencé parce que Jésus a eu faim. Jésus a eu faim. Vous vous rendez compte? On n'imagine pas ça quand on parle de Jésus. Hein, on le voit comme un extraterrestre. Hein, eh oui, planant au-dessus de la terre, enfin que sais-je encore. Mais pas comme quelqu'un comme nous qui a eu faim. Il vous arrive d'avoir faim? Là, peut-être ça gargouille, là, hein, la première journée de travail. Waouh, vite ce soir, pasteur, dépêche-toi. Non. Alors, en tout cas, Jésus a eu faim. Il était à Béthanie avec quelques disciples. Béthanie, c'est à quelques distances à l'est de Jérusalem. Et quand on se rend de Béthanie à Jérusalem, ben, il faut escalader une colline, tout simplement. Et là, une fois au sommet, eh bien, on commence à apercevoir Jérusalem. Une ville magnifique, Jérusalem. On l'appelle la ville de lumière. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Alors cet effort matinal a sans doute ouvert l'appétit de Jésus parce que, attiré justement par l'apparence de ce figuier, il va voir justement s'il peut y trouver quelques figues, hein, tout simplement. Mais comme il est dit, ce n'est pas la saison. Alors, il n'en a pas trouvé. Et c'est là qu'il va prononcer ces paroles qui ne ressemblent pas à des paroles habituelles dans la bouche de Jésus, hein, parce que ce sont des paroles de malédiction. D'ailleurs, le figuier ne va pas s'en remettre, puisqu'il va sécher. Il va mourir là sur place, instantanément. Alors, il ne semble pas que nous ayons affaire du sentiment à propos de cette arme. Plutôt, à chercher à comprendre. Hein. Et si Jésus, justement, n'a pas voulu nous donner là une sorte de parabole, nous amener à la réflexion, hein, de réfléchir à un problème autrement plus important que la vie ou la mort d'un simple figuier. Première chose qui attire notre attention, j'y reviens, c'est que Jésus a eu faim. Il a eu faim. L'homme, Jésus, tout comme nous, eh bien, avait des désirs. Lorsqu'il était homme, il était semblable à nous en tout point, c'est ce que nous dit l'Écriture. Il a été, ou il était notre frère de race, tout simplement, et il partageait en tout nos besoins. Et comme nous, eh bien, il devait manger, il devait boire, il devait dormir, se reposer. En un mot, eh bien, il était homme, parfaitement homme. Et on va le voir, tout en restant Dieu. Parce qu'il était aussi Dieu, et en tant que Dieu, il avait aussi faim. Non pas finalement de figues ou de pain, mais il avait une faim toute particulière. Il avait faim tout simplement de l'amour des hommes qu'il était venu sauver. Un jour, il m'a dit, Bernard, je t'aime. Et je pense qu'il l'a dit à pas mal de monde ce soir. Et j'aimerais t'amener à réaliser que Jésus te dit, je t'aime toi qui es là. Toi qui ne sais pas où tu en es, je t'aime. Et j'aimerais pouvoir te conduire dans la bonne direction. J'aimerais pouvoir te conduire sur le chemin de la vie éternelle. J'aimerais te donner comme un nouveau départ pour que tu puisses enfin vivre vraiment. Non pas dans la terreur, non pas dans la peur, mais avec une paix surnaturelle. Une paix qui vient d'en haut. Amen. Alors si d'une manière particulière, le figuier est une image du peuple de Jésus, c'est-à-dire le peuple juif, je dirais que d'une manière générale, il est aussi l'image de l'humanité. Je dirais plus précisément un reflet de chacun d'entre nous. Parce que on voit un petit peu ce qu'a été notre vie. Et ce qui a attiré Jésus, on le dit, il le dit lui-même, c'est l'apparence de l'arbre. Cette apparence était belle. C'était un arbre superbe. Il avait un superbe feuillage magnifique puisqu'il a attiré le regard. Et il a donné envie à Jésus d'aller y trouver des figues. Vous voyez donc, c'est qu'il devait être beau cet arbre. Et oui. Alors, savez-vous que nous vivons dans un siècle qu'on appelle le siècle de l'apparence. Eh oui. L'apparence est considérée comme un facteur de première importance. Et cela au détriment d'une réalité qui est souvent moins belle. Alors, c'est le dilemme entre être ou paraître. Il faut que je paraisse, il faut qu'on voit qui je suis. Je suis magnifique, hein? Non, mais c'est être ou paraître. Et le jugement de Jésus sur le figuier nous apprend que être vaut mieux et de loin que paraître. Parce que souvent, on a des surprises. On idéalise quelqu'un, on le porte au nu, puis quand on s'en approche de près, qu'on commence à gratter ce qui est apparent, on s'aperçoit que le vernis, il se détache. La dorure, hop, elle s'en va. Et derrière, eh bien, c'est pas très beau. Eh oui. Alors la beauté, elle seule, n'est jamais une garantie de qualité. Eh oui. Souvent même, elle cache, je dirais, le laid, l'horreur. L'insupportable néant, et on tombe des nues. Lui, j'aurais jamais cru. Elle, pas possible, tu te trompes de personne. Non, non, c'est pourtant elle. Eh oui, eh oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé de gravir des collines, des promontoires. Hein, il y a certainement des points hauts, et souvent dans toutes nos villes, il y en a. Et de monter pour voir un petit peu, donc en altitude. Alors nos cités, elles sont belles. Quand les lumières commencent à s'allumer, la nuit, ou le soir qui tombe, hop, vous avez les lampes qui s'allument, c'est magnifique, les quartiers qui commencent à briller, eh oui, oui. Ça brille, ça scintille, hein, c'est une vraie féerie. Et on n'est pas loin de Noël, mais à Noël, c'est magnifique, nos villes. Hein, même si on veut faire des économies, si on y met des LED, mais les LED s'allument bien, hein, ça présente bien, ça donne une belle apparence. Alors, ça, c'est une beauté apparente, vous voyez, bien sûr. Seulement, il n'y a pas que ça. La vie est belle Mais est-ce qu'elle est vraiment belle pour tous ceux qui habitent nos cités? Est-ce que c'est vraiment un havre de paix, un paradis que nos villes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois qu'il est bon de réfléchir à ce que la beauté apparente cache. Eh oui, eh oui. J'ai rencontré tout au long de mon ministère des gens dont l'apparence semblait être formidable, une garantie de bonheur, d'équilibre, d'honnêteté. Mais hélas, derrière l'apparence, il y avait autre chose. Il y avait de la souffrance. Il y avait de la misère. Il y avait également du vice. Il y avait de la dépravation. Ce qui fait un peu horreur. Vous voyez ? Pas possible, mais si. Tu es comme ça. Eh oui. Bon, on parle de la suite de certaines choses qui se sont produites dans la vie de ces hommes-là ou de ces gens-là. Hein. Mais pourtant, c'est là. Et vous avez des personnes qui vous disent, mais si je pouvais prendre un nouveau départ. Parce que ça on dirait que ça me colle à la peau, je ne peux plus m'en séparer, je ne sais pas comment vivre autrement. Si je pouvais m'en séparer. Alors bien sûr, en tant que chrétien, déjà enfant de Dieu, on présente Jésus en tant que pasteur d'autant plus. On présente celui qui est capable de libérer cette personne. Et j'ai vu comme cela des miracles. Le Seigneur a opéré dans des vies, il est transformé. Il est délivré de la drogue. Amen. Il est délivré de possessions démoniaques parce que le Seigneur est capable de faire cela. Il donne autorité justement eh bien, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors tout comme les disciples, nous pourrions nous aussi dire, quand on regarde un petit peu nos cités, nos villes, il n'y a pas de fruit. Il n'y a aucun fruit. Alors vous savez, ce que le Fils de Dieu vient chercher en nous, c'est du fruit. Et comme il dit dans la parole de Dieu, du fruit digne de l'apparence qui est la nôtre. Et le figuier avait des caractères de sa race, mais il n'en avait pas les fruits, celui-là. Il n'avait rien. Et nous avons, nous, les caractères de notre race. Nous en avons les fruits. Je connais des personnes qui me disent mais je rougis quand je pense à ce que j'étais auparavant. J'ai honte. J'ai honte. Et je n'aime pas qu'on me rappelle ce que j'étais avant. Pourtant, la réalité est là. Quand ils rencontrent des amis, oh, tout va plus, tu te rappelles ce qu'on a vécu. Ah, ne m'en parle pas, ne m'en parle pas. Ben oui. C'est fini, ça. Ça permet de témoigner. Ça permet finalement de faire connaître qu'il y a autre chose, qu'il y a une vie nouvelle, qu'on peut vivre autrement. Et je dirais d'une manière plus élevée. Voyez ? Eh oui, eh oui. Marcher en nouveauté de vie, comme dit la parole de Dieu. La Bible nous dit tout simplement que celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Elle nous dit aussi que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ça nous ramène un peu plus bas tout ça, hein ? Eh oui, eh oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas un grand pécheur, hein ? J'ai pas tué, j'ai pas volé. Ok, mais tu as fait tout le reste. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on n'est pas exempt. C'est David qui disait, je suis né dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Enfanté, je suis né. Un bébé, qu'est-ce qu'il a pu faire ? Mais pourtant, c'est notre nature. Depuis que nos premiers parents ont péché, hein, et bien l'humanité tout entière, elle gît justement sous cette sorte de malédiction, hein, cette vie terrible qui nous agresse tous, les uns et les autres. Hein. Alors, est-ce dire que la malédiction est là, que les fléaux qui nous frappent, notre monde en sont la manifestation ? Je dirais non. Même si, pour une part, la conséquence de nos folies, de nos actes, irresponsable, eh bien nous avons des fruits à porter. Là, ce sont des mauvais fruits, hein, c'est pas la figue. Hein. Mais je dirais pas la malédiction de Dieu. Parce que Dieu, c'est tout à fait autre chose. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Non. Mais elle veut son salut, il veut son salut, pardon. C'est ce que nous affirme la parole de Dieu. Et c'est la différence entre ce figuier et nous. Tout simplement. La Bible, par ailleurs, nous parle d'arbres extraordinaires qui portent des fruits 12 fois l'an et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Formidable! Ça, c'est la création de Dieu aussi. Amen. Eh oui. Alors, le secret de ces arbres, c'est qu'ils sont plantés sur des berges d'un fleuve qui sort tout simplement du trône de Dieu. Eh oui. Vous trouvez ce texte dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 2. Alors, la question que je me pose est celle-ci. Où poussent vos racines? Où sont-elles? De quoi sont-elles nourries? Ou si vous préférez, de quoi vis-tu, mon ami? Ton âme est rassasiée par quoi? Elle est nourrie par quoi? Tes pensées sont nourries de quoi exactement? Eh oui. Est-ce que c'est de la richesse qui vient de Dieu ou de la pauvreté de ce monde? Ce monde qui, excusez-moi, mais il est changeant. Aujourd'hui, c'est ça la valeur, demain, ça ne vaut plus rien. Tous les points de repère sont déplacés. Les bornes, si vous préférez, comme dit la parole de Dieu. Eh oui, elles sont déplacées. Eh oui. Et on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus ce qui est bien. On ne sait plus ce qui est mal. Eh oui. Alors, êtes-vous nourri de cette nourriture conditionnée par des circonstances ou alors parce qu'il donne des certitudes? Et là, je parle de l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Lui nous donne des certitudes. Si peut-être tu rentrais dans ce lieu en disant « mais je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais, et... qu'est-ce que je vais devenir ?» Eh bien, sache que si tu tournes les regards vers Jésus, celui que la Bible appelle le Sauveur, celui qui a choisi le sacrifice sur le bois de la croix, pour que toi tu sois libéré, que tu aies enfin une orientation à ta vie. Êtes-vous plongé dans la confusion et les rêves de l'inexistence de Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui, malgré l'évidence, vont dire « Dieu n'existe pas ». Oui. D'autres vont s'attacher à la réincarnation. Ou alors au bonheur que procure la jouissance immédiate et sans réflexion des choses de ce monde. T'as vu, des fois, on nous dit « mange, bois ». Tu bois, puis après, c'est un tourboyau. Oh, bête! Et ça fait mal. Ça fait mal. D'abord, il faut le faire passer. Quand on l'a fait passer, on dit « mais qu'est-ce que c'est mauvais !» Pourtant, apparemment, il s'en régale. Il s'en régale. Mais oui, mais il faut voir la fin. Il faut digérer après ces choses-là. Et bien souvent, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles, et oui, c'est terrible, mais c'est cela. Hein. Alors, si c'est uniquement dans ce monde que vous espérez trouver le bonheur, la santé morale, physique, psychique, ou l'espérance, eh bien, vous ne pourrez, je dirais, pas trouver la force, tout simplement, de produire d'autres fruits que ceux que vous avez produits jusqu'à présent. Des fruits auxquels vous aspirez, parce que, mine de rien, des personnes qui sont noyées dans ce monde vous disent « mais si je pouvais tout recommencer, je l'ai déjà dit, mais si je pouvais vivre autrement, penser autrement, je signerais dès demain, même si je ne suis pas gaucher. » Moi, je suis ambidextre, hein. Mais il y en a qui ne savent pas se servir de la main gauche, hein, ou le contraire. Hein. Mais vous disent « je signerai, j'y arriverai. » Pourquoi? Ça veut dire quoi? Parce que ils aspirent à autre chose. Ils ont envie de vivre autrement, oui. Alors bien sûr, on peut trouver des tas d'excuses comme l'ont fait les disciples de Jésus en disant « ce n'est pas la saison, Seigneur !» Ou « c'est pas encore la saison, trop tôt !» Eh oui, pour vous, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Aujourd'hui, il y a encore des circonstances qui ne sont pas favorables. Eh oui, c'est la faute au contexte. Ou alors d'autres vont dire « Ah, si je ne vivais pas avec telle femme ou tel homme, ce serait différent. » Ah, eh bien oui. Alors, la Bible lance un appel solennel dans la lettre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. « Aujourd'hui, non pas demain, après-demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Le problème, il est là. C'est que bien souvent, devant la réalité, devant la vérité, on s'endurcit. Ouais. Endurcir son cœur, c'est résister à l'appel, écoutez bien, à l'appel d'amour du Sauveur. Vous résistez à quelqu'un qui vous dit « je vous aime » ou « je t'aime ». Alors, on va se tutoyer. Hein, « je t'aime ». Si une femme vous dit « je t'aime », vous les hommes. Quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, mais beaucoup plus jeune, je ne connaissais pas encore Marie-Paul, hein. Eh bien, ça brillait, et puis ça tapait là, hein. Bon, 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 bon. Après, ça tapait pour Marie-Paul, et ça tape toujours pour Marie-Paul. Ben oui. Ben oui. C'est pour la vie, hein. Alors, quand je dis que c'est résister à l'appel d'amour du Sauveur, qui n'ayant pas trouvé de fruits, au lieu de nous maudire, parce que c'est cela, comme il pourrait le faire, qu'est-ce qu'il nous présente et qu'est-ce qu'il nous propose? Son pardon. Son pardon. Je ne sais pas ce que vous avez fait, moi j'avais fait quand même pas mal de choses. Et puis un jour j'ai compris que Dieu me disait « je te pardonne ». Je te pardonne, je te délivre. Je mets des nouveaux sentiments en toi. Et puis vous vous surprenez en train de réfléchir sur les choses de la vie, mais autrement. Je me souviens au tout début de ma conversion, mais... Je disais, mais qu'est-ce qu'ils chantent bien, ces oiseaux? Les fleurs, quelle couleur magnifique! Mais c'est vrai! Et je suis allé même jusqu'à dire, mais ils sont sympas tous là, pourquoi est-ce que je me suis cogné avec eux? Mais oui, ils sont sympas! Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'était là. Un changement profond, une transformation. Amen. Oui, je n'ai pas endurci mon cœur, mais j'ai laissé la parole de Dieu me visiter. Pourtant, des années avant, j'avais refusé, j'avais repoussé. Non, non. J'étais athée, moi. Oui. Et puis un jour, j'ai compris, j'ai réalisé. Alors, le contraire d'endurcir son cœur, c'est accepter de croire en son amour vrai, plutôt. Je dirais que les fables qui ont guidé votre vie jusqu'alors, jusqu'à ce jour. Et puis là, vous verrez, comme je suis en train de l'expliquer, des fruits vont venir, hein, des fruits vont être là. Ce sera la saison de la bénédiction de Dieu pour vous. Et là, vous arrêterez de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Mais oui, parce qu'on l'a tous fait, on est tous passés par là. Hein. Et oui. Vous réaliserez que Dieu vous aime, que Dieu veut le meilleur pour vous. La Bible parle d'un pays où coule le lait et le miel. Et ça, ça nous parle de la douceur, du réconfort, de l'abondance, de la richesse qui ne se trouve qu'au près de Dieu. Amen. Où en sont les promesses qu'on vous a faites? Même vos amis les plus intimes qui vous ont fait de belles promesses. Et qui, entre-temps, vous ont laissé tomber, vous ont oublié, ce qu'ils vous ont dit. Parce que c'est la société dans laquelle nous vivons. Tandis que Dieu, lui, il promet, il tient promesse, il réalise. Invoque-moi et je te répondrai. Et tu verras si je n'ouvrirai pas pour toi les écluses des cieux. Ça, c'est le Dieu que je suis, c'est le Dieu que j'ai accepté, c'est le Dieu que j'ai découvert alors que je ne le connaissais pas. Il m'a fait du bien et il continue à me faire du bien. Amen. Alors combien il est précieux de savoir que dans ce monde de violence, il existe la paix. Amen. C'était Christophe Maé qui chantait « Il est où le bonheur ?» Il est avec Dieu. Il est avec Jésus. Le vrai bonheur. Mais pas un bonheur à 4 sous. Pour mon bonheur, Jésus a payé sur le bois de la croix. Pour que je sois heureux, Jésus a livré sa vie en sacrifice sur ce bois infâme. Il a pris la malédiction qui me revenait. Il s'est chargé de mes péchés. Il m'a libéré. Amen. Et la liberté, c'est formidable, non? Vous croyez pas? C'est pas quelque chose d'extraordinaire? Vous avez des hommes qui vont, des hommes ou des femmes, dans certains pays, qui vont livrer leur vie en sacrifice pour la liberté. Eh oui. Est-ce que ça change autour d'eux des choses? Non. Un seul s'est sacrifié pour nous, pour que nous, nous soyons libres, et il nous rend véritablement libres. Libres des liens de la servitude, des liens du péché. Alléluia. Capable de dire non.
Tu veux un joint?
Non. Ben oui. Mais attends. Et on veut ramener les souvenirs? Non. Négatif. Fini. Eh ouais. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a accepté de mourir sur le bois de la croix. Il nous transforme, il nous donne cette capacité de savoir dire non. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Je vais faire ce qui est bien. Attends, tu te retrouves tout seul, là. Pas grave. D'abord, je suis pas seul. Il est avec moi. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors oui, oui, oui. Il s'est chargé de nos péchés, il a pris la malédiction qui nous revenait, il nous a justifiés auprès du Père Céleste. La Bible nous dit aussi que par les meurtrissures qui lui ont été faites se trouve une provision de guérison. Amen. Une provision de guérison pour nos âmes. Guérison pour nos esprits, pour nos corps, pour nos cœurs. Alléluia. C'est lui le grand médecin. Et on ne lui donne pas le prix Nobel. Mais oui. C'est lui le créateur de la paix. On ne lui donne pas le prix Nobel. C'est terrible, hein? On le méprise. Alors quand je parle de guérison, eh bien cette guérison, elle est pour toi. Tout autant que son pardon. Si seulement en cet instant tu veux croire en Dieu, en Jésus-Christ, dans l'œuvre qu'il a accomplie. Et finalement, il le dit lui-même, mettez-moi l'épreuve. Et vous verrez si je n'agirai pas pour vous. Donc, finalement, le mettre à l'épreuve, mettre Dieu à l'épreuve, mettre Jésus à l'épreuve. Et ce que je peux dire en conclusion, c'est que depuis des siècles, quantité d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve. Pour certains, ils n'avaient plus rien, tant qu'ils ne pouvaient que faire le pas de la foi. Pour d'autres, ça a été plus difficile, parce qu'ils avaient de quoi être rassurés par ce qu'ils avaient. Mais en fin de compte, quand ils ont fait le tour, ils ont dit, si j'ai essayé Jésus, bien des choses m'ont déçu. J'ai été trompé, parce que je croyais être solide. Mais finalement, si j'ai essayé Jésus, et puis ils ont mis à l'épreuve, et puis Dieu a répondu. Amen. Il a fait le miracle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été déçus. Amen. Je vais vous poser une question. Écoutez bien. Hein. Qui parmi vous qui avez accepté Jésus, aujourd'hui le regrette? Levez la main. Je me retrouve à Béziers. Je pose la même question. Et deux braves sœurs, mais qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur. J'ai pas dû prononcer ou poser la question de la bonne manière, parce que je les ai vus bondir, soulever la main. J'ai dit, vous regrettez? Ah non! Mais oui, parce qu'on regrette pas quand on a donné son cœur à Jésus. On goûte au vrai bonheur. La vraie paix se trouve là, dans la personne de Jésus. Où est-il ce soir? Où est-ce qu'il est ce soir? Vous avez vu? Il est là. Il est au milieu de nous. Il est dit aux deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, il est là, qui que tu sois, quelle que soit ta vie. Moi, je ne vais pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que lui, il sait. Et lui, il veut te dire ce soir, laisse-moi agir. Demande-moi de faire. Demande-moi d'entrer en toi. Prends toute la place. Permets que je fasse le miracle dans ta vie. Puis il va le faire. Il va le faire, il s'y est engagé. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, cet enseignement de l'Écriture. C'est vrai, ce fils a été maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Et quelque part, lorsque nous sommes sans toi, nous sommes comme maudits, nous aussi. Parce que Seigneur, il n'y a pas de bons fruits. Des fruits qui peuvent réjouir le cœur de Dieu. Ce soir, tu nous as parlé, Seigneur, et tu aimerais tout simplement que quelqu'un puisse donner son cœur. S'approcher de toi dans la foi et dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin de toi. Viens me libérer, me délivrer, m'affranchir, faire de moi quelqu'un de libre. Ou alors ça peut être quelqu'un qui va dire, Seigneur, si tu connaissais mon état de santé, pas que physique, mais moral, j'ai besoin de toi. Qui que tu sois, ce soir, permets à Jésus d'agir. J'aimerais que nous restions comme cela. J'aimerais vous demander à vous qui sentez que c'est l'appel de Dieu pour vous, que Jésus s'intéresse à vous, qui veut faire le miracle. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle le pas de la foi. Moi, je l'ai fait un jour. Et croyez-moi, je ne l'ai jamais regretté. J'ai fait simplement ce geste. Comme le pasteur le disait, je le fais ce soir de la même manière. Vous qui avez besoin de Jésus, levez votre main. Levez votre main. Et le Seigneur va agir. Oui, baissez votre main. Dieu vous a vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit, j'ai compris, j'ai réalisé, je ne peux pas rester comme ça. Baissez votre main, où Dieu vous a vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? N'hésitez pas, c'est le temps de Dieu. Dieu veut répondre à sa parole. Seigneur Jésus veut faire le miracle pour toi. Tu es malade, tu es souffrant, tu as des doutes. N'hésite pas, lève-toi, lève ta main simplement. Voilà, gloire à Dieu. Seigneur, vous aussi. Baissez votre main, oui, gloire à Dieu. J'aimerais simplement prier. Seigneur, merci d'étendre ta main. Tu as vu ces personnes qui ont fait le pas de la foi, qui ont dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce soir, c'est quelque part un cri qui monte vers toi. Aie pitié de moi, Seigneur, et viens me secourir. Viens le faire pour la gloire de ton nom, mais pour mon bien à moi. Merci, Seigneur, d'étendre ta main. Également pour ceux qui n'ont pas osé, peut-être, qui disent, mais Seigneur, mets des certitudes. Agis, Seigneur, en mettant de puissantes convictions dans leur cœur pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pour eux, parce qu'ils ont besoin de te connaître tel que tu es. Amen.